Le commentaire de
Sophie Durocher. Des idées pas comme les autres.
Salut Sophie.
Bonjour Philippe-Vincent. Écoute, je t'avais dit que je te parlerais ce matin d'un premier sujet et d'un deuxième sujet, mais avant d'aborder les deux sujets, je voudrais revenir sur l'entrevue que tu viens de faire avec notre collègue Jean-François Cloutier. Oui. Sur cette histoire absolument sordide. D'ailleurs, quand on regarde sur le site Journal de Montréal, Journal de Québec, c'est l'histoire la plus lue, donc ce conseiller financier qui aurait abusé de la naïveté, peut-être de la candeur d'une personne âgée qui avait quand même reçu un héritage d'un $1 million que le gars aurait dilapidé parce qu'il reste juste $500,000 dans son compte. Et je trouve que tout le monde devrait écouter l'entrevue que tu viens de faire parce que ça nous sensibiliserait à notre santé financière. Mmh. Il viendrait à l'idée de personne de dire, par exemple, à notre médecin, ou à notre médecin de famille, écoutez, faites tous les tests pour savoir si j'ai le cancer, faites tous les tests pour savoir si j'ai le diabète, puis je veux pas vraiment savoir les résultats parce que je connais rien à la médecine, donc occupez-vous-en, puis moi je veux rien savoir. Pourtant, c'est ce qu'on fait avec notre santé financière. On confie notre argent à une personne, puis on lui dit, écoutez, moi, je connais rien en finance, fait que occupez-vous de ça, puis je veux pas voir les papiers, puis j'irai pas vérifier dans mes comptes, puis je veux pas être au courant. Et je pense qu'on doit prendre conscience, même si on a 93 ans ou qu'on a 22 ans, puis qu'on commence dans la vie, il y a un manque de littératie financière au Québec qui est assez flagrant, puis tous les gens qui travaillent dans le domaine financier le répètent régulièrement, à quel point les gens savent pas c'est quoi la différence entre un REER, un CELI. Il y a comme une espèce de tabou envers l'argent au Québec et on a cette espèce de crainte de dire, ah ben là, moi je connais pas ça, fait que quelqu'un d'autre va s'en occuper, jusqu'au jour où finalement on se rend compte qu'on s'est fait avoir. Je dis pas évidemment que tous les conseillers financiers sont des ripoux, mais je veux dire, on n'est jamais à l'abri d'une malversation et donc il faut prendre soin de sa santé financière comme on prend soin de sa santé physique, comme on prend soin de sa santé mentale. C'est extrêmement important d'aller vérifier. Quand notre conseiller financier nous dit, ben écoutez, cette année, vous avez pas fait beaucoup d'argent, Madame Durocher, ben il faut aller vérifier, il faut poser des questions, il faut lire les rapports, il faut aller vérifier sur notre compte le rendement, qu'est-ce qui a été fait avec notre argent. Mm-hmm. Donc je pense que c'est un peu un wake-up call ce matin, cette histoire-là de cette dame de 93 ans qui s'est faite... qui se serait, en tout cas, fait avoir par un gars qui lui achète un VR puis un bateau à 93 ans puis dans une résidence pour personnes âgées. C'est quoi ça, cette affaire-là? Donc, il faut s'occuper de nos affaires financières. Il faut pas le barrer la porte puis mettre ça sur un...
Non, puis il faut en parler aussi parce que, c'est souvent, on se dit, je connais rien à ça. On n'en parle plus, c'est fini, je connais rien à ça. Voici, je te donne mon argent, puis gère-les. Puis même si je fais pas beaucoup d'argent, on n'en parle plus. J'ai l'impression que c'est souvent ça qu'on a comme discours.
Voilà, et c'est vraiment une phrase qu'on entend souvent. Je ne connais rien là-dedans. Je porte pas de jugement sur les gens qui disent ça, mais on ne peut pas se permettre de dire ça. Il faut, même si on confie ça à quelqu'un, c'est comme, tu sais, tu t'en vas voir le garagiste puis tu lui dis, moi je connais rien, fait qu'arrange-toi avec mon moteur. La facture est plus salée dans ce temps-là. Mmh. Il faut poser des questions, il faut vérifier. Le diable est dans les détails. Et écoute, il faut éviter évidemment que des personnes âgées, mais même, je trouve que c'est quelque chose qui s'applique aussi pour des gens qui commencent dans la vie, qui se font dire, t'en fais pas, je vais gérer ton argent. Il faut poser des questions, il faut vraiment aller vérifier, pas se retrouver dans ce genre de situation-là. Mais oui, je pense qu'à la base, c'est vraiment un problème qu'on a au Québec de littératie financière. Et j'espère que dans les programmes, dans les écoles, qu'on va apprendre aux jeunes. Tu sais, on avait avant, dans le bon vieux temps, Philippe-Vincent, des cours d'économie familiale où on apprenait aux gens à gérer un budget, l'importance de l'épargne, les intérêts composés, etc. Moi, je trouve c'est extrêmement important. On a mis ça de côté et on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui savent pas épargner, comment ça marche les finances. C'est comme une espèce de grand trou noir là, puis on sait pas trop comment ça se passe, puis en fait on veut pas le savoir.
Ouais, c'est souvent ça dans les discussions qu'on peut avoir. Parle-moi de ces salles de spectacle qui hésitent en ce moment. Est-ce qu'on annule, on fait de l'argent ou on présente nos spectacles à 50% puis on en perd de l'argent?
Écoute, c'est un article extrêmement intéressant dans Le Devoir de ce matin. Catherine Lalonde, reporter culturelle, a rencontré différentes personnes dans le milieu culturel parce qu'on sait que les annonces du gouvernement, c'est oui, les théâtres peuvent ouvrir, les salles de spectacle peuvent ouvrir à partir du 7 février, mais à 50 % de leur capacité. Donc, elle est allée voir différentes personnes dans le milieu du spectacle qui lui disent tous la même chose. Écoutez, on a fait le calcul. Le Conseil des arts et des lettres du Québec nous rembourse de l'argent. Ça s'appelle une mesure d'aide à la billetterie. Donc, si on doit annuler un spectacle et les billets non vendus le calquent, le Conseil des arts nous rembourse un montant. Et ils ont fait le calcul en disant, ben, si on ouvre à 50%, on va perdre de l'argent, alors que si on annule le spectacle, en fonction de l'argent qui va nous être versé par le Conseil des arts et des lettres, on va recevoir de l'argent. Donc, t'imagines, tu te retrouves dans la situation où c'est plus simple de faire un déficit, parce que tu sais que le gouvernement va être là par le biais du calque pour venir t'aider, alors que si tu ouvres tes portes, vu que tu ne peux pas vendre suffisamment de billets parce que tu es à 50%, et en plus, le message que le gouvernement envoie en disant « vous pouvez ouvrir seulement à 50%, il y a une partie du public qui perçoit ça en disant « ah, oh, ben là, c'est parce que ça doit être dangereux d'aller au théâtre. » Tu comprends? Ça doit être dangereux d'aller voir, d'aller assister à un spectacle de danse ou d'aller écouter de la musique. Si le gouvernement nous dit que vous pouvez juste ouvrir à 50%, ça doit être parce qu'il y a des risques d'éclosion, alors qu'on le sait que tout le monde porte le masque, il faut se laver les mains, etc. Il y a comme tout un protocole autour des salles de spectacle. Ben, les salles de spectacle disent, écoutez, nous, ça va être plus rentable pour nous d'annuler les spectacles. Mais t'imagines ce que ça veut dire pour les artistes, pas seulement ceux qui sont sur scène, mais tous les gens qui sont dans les coulisses, tous les gens aux communications, etc. Donc, un spectacle qui ne voit pas le jour, c'est un petit peu Mozart qu'on assassine à tous les jours. Donc, je pense que le gouvernement devrait regarder cet article-là dans Le Devoir et réviser sa jauge de 50% qui, selon moi, n'a pas sa place.
Sophie, bonne journée.
Merci beaucoup, à demain.
Salut. Richard, bonjour.
Bonjour.
Hey, as-tu vu ça? Ils ont annoncé les présidents du comité de la conférence sur le désarmement. Okay? Ça, c'est ceux qui ont à l'ONU.
Oui.
C'est ceux qui ont négocié notamment le traité sur la non-prolifération nucléaire, oui, sur la fin des essais nucléaires. Et l'un des présidents sera la Corée du Nord. Quand même.
Arrête.
Du 30 mai au 24 juin, ouais, on a annoncé
J'adore ça.
Bon, hein?
C'est comme quand il avait nommé l'Arabie Saoudite aussi à la tête du Comité des droits de la personne, ouais, là, puis au Conseil des femmes, du droit des femmes. C'est génial.
C'est le fun.
C'est fantastique. Mais qu'est-ce que tu veux? Un pays, un vote. Hein? Ils ont le droit de se présenter. Fait que,
c'est
voilà.
Ça. Ben, je me suis dit que je viens tout juste de voir passer ça. Je me suis dit que
tu aimerais
ça.
Tu fais ma journée. Écoute, Éric Duhaime.
Oui. Comment il va?
Il dit, je suis pas anti-vax, sauf que il veut pas encourager les gens à se faire vacciner. Il dit, t'as eu d'en parler avec leur médecin. Tu sais, il veut pas encourager les gens à se faire vacciner parce qu'il a peur que les coucous anti-vaccins quittent son parti. En même temps, il veut pas dire qu'il est anti-vaccin parce qu'il veut attirer les vaccinés. Il essaie de jouer, de parler des deux côtés de la bouche.
Non, puis là, ne pas réécrire l'histoire aussi sur Anne Cazabonne? Ben, de me dire que c'est pas un anti-vaccin puis c'est de la satire. Là.
Hey, come on, là. On a-tu une poignée dans le dos?
Ah oui, j'en ai une grosse. Richard, bonne émission. Merci à toute l'équipe.
Salut.
On se retrouve demain.